Bonjour mes frères et sœurs, ouvrons le Saint-Livre. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Un premier texte sur la Sainte-Cène. En vérité, ce texte qu'on va lire, on ne va pas le lire en entier, mais c'est un texte qui fait la comparaison entre la Seine et l'idolâtrie, la Sainte-Cène et l'idolâtrie. Mais il y a un verset qui nous intéresse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que leur Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Ce texte sur la Sainte Cène que nous allons partager ce matin nous rappelle, une fois de plus, que le désir du Seigneur, c'est la communion. Que nous ayons avec lui une véritable communion. Beaucoup de chrétiens s'imaginent, je l'ai souvent dit, que parce qu'ils prennent le pain et le vin, ils sont en communion avec Dieu. C'est complètement faux. C'est quelque chose de plus sérieux. On va le voir ce matin. Dieu nous invite. Approchez-vous de Dieu, dit la Bible, et il s'approchera de vous. Toute la parole de Dieu nous indique que Dieu veut cette intimité avec chacun d'entre nous. Quelle que soit notre responsabilité dans l'Église, Dieu veut une communion réelle avec lui. C'est une promesse, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais c'est aussi une instruction, c'est un commandement. En fait, ça devrait nous stimuler, ça devrait nous émerveiller de voir que Dieu invite chacun à s'approcher de lui. Donc Dieu, notre Père, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur, il est votre Père. Si vous ne l'avez pas accepté comme Sauveur et comme Seigneur, il est votre Dieu, mais il n'est pas votre Père. Il faut dire ces choses, elles sont archi sérieuses. Beaucoup de gens récitent notre Père, c'est dommage. Dieu n'est pas leur Père. Dieu devient notre Père quand nous devenons ses enfants, véritablement, par ce que l'on va voir. Quand vous lisez la parole de Dieu, je vous donne des textes pour que vous compreniez mieux. 2 Corinthiens 13:13, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. On voit que c'est la volonté de Dieu que chaque chrétien soit en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1:9, ne le cherchez pas. Nous sommes appelés à la communion de son Fils. Le texte qu'on vient de lire juste avant dans 1 Corinthiens 10, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc, nous prenons chaque dimanche la Sainte-Cène. Et vous savez, moi des fois je suis perdu dans, moi j'ai l'impression, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est bien ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. J'ai l'impression que tout ce que je sais, tout le monde le sait. Ça fait que pour moi la doctrine, c'est quelque chose que tout le monde sait. Pourquoi ? Parce que moi quand je me suis converti, J'ai posé au pasteur, la doctrine, c'est quoi exactement? Parce que j'avais jamais ouvert la Bible. Et il m'a dit, écoute, tu prends Pentecôte, dans tous les Pentecôtes, il y a la confession de foi des Assemblées de Dieu de France. Donc j'ai pris le Pentecôte, j'ai lu les 12 points sur la doctrine, et pendant 2 mois, j'ai étudié la doctrine biblique. Et pour moi, j'ai l'impression que dès que quelqu'un découvre l'Évangile, il fait ça. Comprenez ce que je veux dire? Donc ça fait que moi, j'ai l'impression que tous les croyants, au bout de 2 mois, ils connaissent tout sur la doctrine. Mais je me rends compte avec le temps que ce n'est pas le cas. C'est vrai que je le crois. Si je crois qu'un plus un, ça fait deux. Vous le croyez aussi? D'accord? Pour moi, c'est pareil pour toute la Bible. J'ai l'impression que tout ce que je sais, tout le monde le sait. Alors, c'est une erreur que je fais parce que je me rends compte que sur la Sainte-Seine, je n'ai jamais prêché sur la Sainte-Seine. Pourquoi? Parce qu'il me semble que lorsque quelqu'un va prendre le baptême, il a le souci de savoir ce qu'est la Sainte-Seine. La Seine, qu'est-ce que ça veut dire la Seine? Alors, c'est bien de regarder dans un dictionnaire. La Seine, ça veut dire un repas. Mais en vérité, ça veut dire le souper. C'est le repas du soir. Alors, je vais vous donner quelques définitions parce que souvent, je me rends compte qu'on utilise des mots et on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Bon, mais ça, c'est normal. Ça, c'est pas grave. Alors, la scène, ça veut dire le souper, ça veut dire le repas. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a différents noms qui sont donnés à la Sainte-Seine. On va lire quelques-uns. Parce qu'il y a des gens, j'étais dans une église, ils ont parlé la table du Seigneur. Ils ont dit, on va prendre la table du Seigneur. Et, mais vous voyez, c'est biblique. Regardez, 1 Corinthiens 10, 21. Je vous le dis parce que l'apôtre Paul donne plusieurs noms à ce que nous appelons la Sainte-Seine. Mais lorsqu'on dirait on va prendre la table du Seigneur ou on va participer à la table du Seigneur, c'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc c'est clair, l'apôtre Paul appelle la Sainte-Seine aussi la table du Seigneur. Acte 2, 42. C'est un peu doctrinal, bon, ce n'est pas mon sujet préféré, la doctrine, mais quand même, je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas bien avec Dieu parce qu'ils n'ont pas pris soin d'apprendre la doctrine. Acte, parce que notre cœur, il n'est pas fait pour la doctrine, notre cœur, il est fait pour la communion avec Dieu. Et beaucoup de gens connaissent la doctrine, mais ne sont pas en communion avec Dieu. Mais il faut les deux. Regardez, acte 2, 42. Acte 2, je vous encourage à lire ce livre régulièrement. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc là, la Sainte-Seine est appelée la fraction du pain. Au verset 46, comment c'est appelé? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Vous voyez, la fraction du pain ou rompre le pain. C'est important ça, voyez, 1 Corinthiens 11, 20, on l'a lu, non? Oui, le repas du Seigneur, la communion du Seigneur, et Paul dit bien, on l'a lu, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, il l'a reçu du Seigneur. Parfois on entend des chrétiens dire, oui la Sainte-Seine, est-ce que c'est utile? Pourquoi dans les églises il y a la Sainte-Seine, dans d'autres il n'y en a pas? Écoutez, C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui a été enseigné par le Seigneur Jésus lui-même. On appelle parfois le sacrement de la Sainte-Seine, mais ce n'est pas faux non plus. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin. Vous voyez? Des fois on dit telle chose, elle est sacrée, mais Dieu n'en parle pas comme un sacrement. Bon, là aussi il y a un mélange avec les sacrements et les institutions et les engagements. Mais mes frères et sœurs, la Sainte-Seine, c'est une institution divine. Vous êtes conscient, les gens prennent la Sainte-Seine, je vais vous dire, vous allez comprendre le pourquoi de ce sujet que Dieu m'a mis à cœur. Vous allez comprendre. Avant de mourir, d'ailleurs on l'a vu, c'était lors de son dernier repas, Jésus a institué la Sainte-Seine. C'est quelque chose d'important dans l'Église du Seigneur. Vous êtes d'accord que c'est important? C'est quoi le plus important? Parce qu'une fois, quelqu'un disait pendant la Sainte-Seine, et c'est bien, il faudrait que les frères qui distribuent la Sainte-Seine, ils arrêtent de distribuer le pain et le vin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui. C'est quoi le plus important? Les prophéties ou la Sainte-Seine? Oui, parce que des fois, moi, j'entends de ces choses, ça m'amène à ce genre de réflexion. Tout est important, bien sûr. Je pense que c'est bien quand une prophétie est donnée, que tout le monde s'arrête. Vous ne croyez pas qu'il y ait de l'ordre, de la bienséance? C'est important. Peut-être quelqu'un va entendre quelque chose d'extrêmement important pour lui, s'il est gêné par ci, par là. Tout est sérieux. Et je crois qu'on est... beaucoup. Moi, je suis choqué. Je vous assure, je suis choqué. Par ce que j'entends, parfois même ici dans cette assemblée, de chrétiens qui sont d'une légèreté avec les choses de Dieu. Quand quelque chose vient de Dieu, c'est sérieux. Vous êtes d'accord? Quand c'est Dieu qui l'a institué, si c'était les assemblées de Dieu, d'accord? Mais ce n'est pas les assemblées de Dieu qui ont institué la Sainte-Seine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous comprenions vraiment chaque fois quel est le sens réel de la croix. Est-ce que vraiment je me souviens qu'il est l'agneau immolé? Et que le monde entier doit le savoir. Il a été immolé pour tous les hommes, de toute nation, de toute tribu, de toute race. Ces choses, on doit les rappeler. C'est quelque chose qui est fort, ça nous rappelle notre délivrance. Vous n'êtes pas heureux d'avoir été délivré de l'enfer? Délivré du péché? Délivré de la perdition? Il y a des gens qui ne croient pas à l'enfer, alors c'est clair qu'ils prennent ça à la légère. Mais l'enfer, ça existe. Et il y a plein de chrétiens qui vont y aller. C'est écrit ce que je vous dis ou c'est pas écrit? Mais c'est sûr que c'est écrit. Même des pasteurs. Les pasteurs, eh oui, parce que beaucoup de gens s'imaginent que parce qu'on fait ci, parce qu'on fait là, parce que Dieu bénit le ministère, que Dieu bénit la personne. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y a un texte terrible à la fin du sermon sur la montagne. Donc c'est quelque chose que l'on peut apprendre dès que l'on se convertit. Des fois on dit, oh ça il ne faudrait pas le dire, s'il y a des nouveaux. Ce n'est pas vrai. Si c'est dans le sermon sur la montagne, c'est que tout le monde peut l'entendre. Jésus dit, mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Il dit ça. Ce sont ceux seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus leur dira ouvertement, ça sera clair, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas le moment ce matin. Dieu peut bénir un don, mais pas forcément la personne. Et ce qui est important, c'est que nous portions du fruit. La Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on doit faire avec considération. On doit le faire avec sérieux. Oui ou non? Mes frères et sœurs, je ne sais pas si nous sommes conscients. On prie pour le réveil, on prie pour que Dieu nous bénisse. Mais quand même, ce qui a été institué par Dieu, ça doit être fait sérieusement. Nous avons été délivrés, nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Oui ou non? Je l'ai déjà dit, s'il y a des gens qui peuvent être joyeux aujourd'hui sur terre, il n'y a que les chrétiens. Les autres, je ne sais pas comment ils peuvent être joyeux. Les vraies personnes aujourd'hui qui peuvent avoir de la joie sur la terre, ce sont que ceux qui ont la joie du salut. Ça, c'est sûr et certain. La Sainte-Seine, elle rappelle la communion. Le précieux sang de Jésus. Précieux, ça veut dire que ça a du prix. Qu'est-ce que c'est qui a du prix pour vous? Qu'est-ce que c'est qui a du prix? Votre maison? Est-ce qu'elle a du prix, votre maison? Est-ce qu'elle a de la valeur? Ben oui. Mais tant mieux, mais c'est pas, vous comprenez? Mais ce qui est précieux, ça devrait être le sang de Jésus-Christ sur ma vie. En lui, on pourrait prendre tous les textes, il y en a des centaines. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, la richesse de sa grâce. La Sainte-Seine, c'est quelque chose d'important. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Mon père, c'était Satan. Si vous n'appartenez pas à Jésus, je vous le dis d'une manière un petit peu abrupte, mais c'est la vérité. Si vous n'appartenez pas à Dieu, votre père, c'est le diable. Vous pouvez dire, non, non, je suis neutre. Eh bien, moi, je vous dis non. Ou votre père, c'est Dieu, ou votre père, c'est Satan. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et si vous pensez que j'exagère, ben, venez me trouver, je vous montrerai les textes. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Dans l'église de Corinthe, il y avait plein de problèmes. Ils avaient tout reçu, ils avaient les dons spirituels, mais je peux vous dire qu'ils avaient des problèmes. Bon, c'est vrai, c'était l'église naissante, etc. Ils n'avaient pas comme nous toute la parole de Dieu, et ils ne discernaient pas que c'était un saint repas. C'est quelque chose de sérieux. Ils le prenaient à la légère. Alors, avant de regarder la nature de la Sainte-Seine, peut-être de comprendre que la Sainte-Seine, c'est pas le pain en soi. Il y a des gens qui font une fixation sur le pain, sur la coupe, sur le vin, etc. Ce qui est important, c'est l'enseignement spirituel. Le pain en France n'est pas le même que le pain à Tahiti. Moi, j'étais dans des îles, en Polynésie, le pain, c'est fait avec du coco.
la noix de coco.
Alors vous ne le prendriez pas, vous direz, mais ce n'est pas du pain. Mais pour eux, c'est du pain. Le problème, à Pékin, le pain n'est pas le même qu'ici. Au Maghreb, le pain n'est pas le même. Si vous allez en Algérie, le pain n'est pas le même. C'est fait du pain qui est fait de la semoule. Le problème, c'est la réalité spirituelle. Il y a des gens qui font une fixation sur le pain. Si vous allez aux États-Unis, le pain, c'est comme de la brioche. Vous avez déjà été aux États-Unis. En plus, ce n'est pas bon. Mais mes frères et sœurs, le problème, ce n'est pas le pain. Demandez à monsieur... Il est là, monsieur Bordeneuve ? Non ? Demandez comment ils prennent le pain au Niger, c'est pas le même pain, etc. Et le vin, c'est pareil. Il y a des endroits, le vin n'existe, il n'y en a pas. Il n'y a même pas du jus de raisin. Monsieur Bordeneuve me disait que je crois qu'au Niger, des fois, ils prennent de la grenadine. C'est ça qu'il nous avait dit une fois. Moi, c'est ça. Ils prennent la grenadine. Vous, s'il n'y avait pas de vin, s'il n'y avait pas de jus de raisin, bien sûr que Jésus a pris le vin parce que la couleur du vin, Dieu l'a voulu ainsi, rappelle la couleur du sang. Est-ce qu'on pourrait faire... Il y aurait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Tiens, on n'a pas de vin, on n'a pas de jus de raisin. On ne demanderait à une sœur d'amener un pot de confiture de mûre. Je suis sérieux. Et nous le diluerions avec de l'eau, ça ressemblerait au vin. Dans tous les pays du monde, il y a des fruits rouges. Mais mes frères et sœurs, j'entends tellement d'âneries. Mais c'est grave, mes frères et sœurs. Parce que les gens, ils font une fixation sur le morceau de pain ou sur ceux qui représentent du vin et ils ne s'appliquent pas à réaliser le côté spirituel de cette affaire. Ce n'est pas une question de gobelet, ce n'est pas une question de pain coco avec... Il faudrait, si on voulait, à la limite, il faudrait prendre même du pain sans levain. Oui ou non? À la limite. À la limite, vous voyez jusqu'où il faut aller. Et encore, je ne vous dis pas tout ce qu'il faudrait dire. Si on voulait, le problème, il n'est pas dans le pain, la qualité du pain. Le problème, il n'est pas dans la qualité du vin. C'est une réalité spirituelle. Alors, je voudrais vous donner quelques explications parce que quand j'entends tout ce que j'entends, vous comprenez que je suis obligé. Dans certaines églises, par exemple, on l'appelle l'Eucharistie. Vous connaissez l'église? Écoutez bien, non, mais vous allez comprendre. Moi, je pensais que tout le monde le savait, ça. L'Eucharistie, ça veut dire quoi? Ça veut dire action de grâce. Dans l'église catholique, ils ont un enseignement, une doctrine sur la Sainte Cène. Ça s'appelle la transsubstantiation. Cela veut dire qu'au moment où le prêtre élève la coupe, le sang, le vin, devient par un acte magique, je vous rappelle la doctrine, ce qui est écrit dans les manuels de catéchisme. Par un acte magique, le vin devient véritablement le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un changement de substance. Alors dernièrement, vous pourrez le trouver sur Internet, il y a des savants qui ont utilisé l'ADN de l'hostie. Vous le regarderez vous-même, vous verrez ce qui est dit. Ça s'appelle la transsubstantiation. Des fois, on me dit, mais est-ce qu'on peut prendre? C'est une question, ça fait pitié. Si on va dans une église catholique, si on est invité à un enterrement, c'est des questions qu'on me pose, ça. Est-ce qu'on peut prendre l'hostie? Réfléchissez. Je pense que le Saint-Esprit peut vous le montrer vous-même. Est-ce qu'on peut être en communion avec des gens qui prient les morts? Est-ce qu'on peut être en communion avec des gens qui prient des idoles? Mais lisez l'Épître aux Corinthiens et vous verrez ce que Dieu dit. Ce sont des choses sérieuses. Mais c'est la même chose, quelqu'un dira, parce que je l'ai entendu. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chez les protestants, tiens, mais c'est presque comme chez nous. Comment ça s'appelle la Sainte-Cène chez les protestants? Alors, ce n'est pas la transsubstantiation, c'est la consubstantiation. Non, mais il faut que vous le sachiez. Ça veut dire que c'est avec transsubstantiation, c'est un transfert de substance, ce qui n'est pas bien du tout, parce que c'est un acte magique. La consubstantiation, c'est que Jésus est avec le pain et avec le vin. Ça, c'est la doctrine luthérienne dit qu'il y a la présence du Christ dans l'Eucharistie. Les calvinistes, ça explique que la présence, c'est par l'action de l'Esprit. Mais allez sur Internet, aujourd'hui, vous pouvez tout savoir. Et nous, qu'est-ce que Jésus a dit? On le relit, s'il vous plaît, parce que je pense que c'est bien de le relire. Puis même si vous découvrez l'Évangile, qu'est-ce que Jésus dit? La fin du verset 24, 1 Corinthiens 11. Jésus dit ceci, faites ceci, comment? En mémoire de moi. Donc, la Sainte Cène, ça s'appelle une commémoration. Voilà, ça, c'est la pensée biblique. La commémoration. D'ailleurs, Regardez avec moi dans Jean au chapitre 6. Gardez 1 Corinthiens 11. Hein. Jean chapitre 6. Il y a plein de textes comme ça. On leur a fait dire n'importe quoi. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Vous pouvez lire la suite, vous allez voir la réaction des gens. Il s'agit d'une image spirituelle. Manger le sang de Jésus, boire le sang de Jésus et manger son chair, c'est se nourrir de la parole. Il était la parole et la parole, elle est venue. Mais est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous la croyez, et ça ne suffit pas, et que vous obéissez, vous vous nourrissez de la parole du Seigneur. Vous mangez sa parole. Quand Jésus dit, Jean 6, 35, « Je suis le pain », quand il dit, on va faire mieux, c'est plus, vous allez voir. « Je suis la porte ». Je suis la porte. Donc si on va par là, la porte de l'église, c'est Jésus. C'est ridicule. C'est une réalité spirituelle. Je suis le cep. Vous connaissez tous ces textes. C'est 8 textes où Jésus dit « je suis ». Je suis le chemin. Ce sont des réalités spirituelles. Pour aller de la terre au ciel, qui est le chemin? C'est Jésus-Christ. Mais il n'y a pas un chemin matériel, géographique, physique. Il n'y a pas une relation géographique. C'est quelque chose de spirituel. Alors les gens font n'importe quoi. Alors il y a des gens qui ne prennent pas le pain et le vin. C'est de la superstition. Moi, je ne pensais pas qu'au milieu de nous, on avait des gens superstitieux. Il y en a. Souvent, même les Africains, je ne dis pas ça, ce n'est pas du mépris, parce que nous, on a d'autres problèmes. Mais chaque culture a ses défaillances. J'ai souvent remarqué combien des Africains étaient superstitieux. Vous le savez que c'est vrai, j'ajoute rien, j'invente rien. Mes frères et sœurs, manger la chair du Seigneur et boire son sang, c'est obéir à sa parole. Et j'ai la vie éternelle, parce que je me nourris de la parole de Dieu. Donc manger Jésus-Christ, ça équivaut à croire et à obéir. Parce que le mot croire et obéir, dans le grec, c'est la même chose. Vous demanderez à M. Olé si je me trompe. Donc Jésus dit, c'est une commémoration, faites ceci en mémoire de moi. C'est une commémoration, c'est une confession de foi. Je prends la Sainte Cène, c'est une bénédiction. D'ailleurs, il l'appelle la coupe de bénédiction. C'est une bénédiction. Je proclame que Jésus-Christ est mort pour moi. C'est ça la Sainte Cène? Oui ou non? Je me lève devant Dieu, je prends le... Bien sûr, on pourrait la prendre assis. Le problème, il n'est pas là aussi, ce n'est pas physique. Mais je me lève parce qu'on veut aider les gens aussi à comprendre. Qui c'est qui peut prendre la Sainte Cène? Tiens donc ça aussi. Qui peut prendre la Sainte Cène? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Cène? Non. Donc nous, dans les assemblées de Dieu, on a institué ce principe qui est un très bon principe. De demander aux gens de ne prendre la Sainte Cène qu'une fois qu'ils ont pris le baptême. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet aux gens de se positionner. Chez les baptistes, par exemple, vous savez ce qu'ils font? À partir du moment où quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, s'il y a un baptême dans 2 mois, je vous donne un exemple. Je donne ma vie au Seigneur, mais il y a des baptêmes que dans 2 mois. Donc il faut que j'entende 2 mois, ce n'est pas grave non plus. Dieu teste notre obéissance aussi. Donc je ne prends la Sainte Cène que dans 2 mois. Mais dans l'église baptiste, ce qu'ils font, ils font rendre témoignage aux gens une fois qu'ils ont vraiment donné leur cœur au Seigneur. Ça fait que je me convertis, je dis au pasteur, voilà, je voudrais prendre le baptême. Le pasteur me répond, mais monsieur Gou, il y a des baptêmes que dans 2 mois. Et alors je ne peux pas prendre la Sainte Cène. Vous pouvez la prendre, mais vous devez témoigner de votre repentance et de votre conversion. Donc, dans ces églises-là, ils témoignent de leur conversion, de leur repentance. Et à partir de ce moment-là, ils prennent la Sainte Cène. Mais il y a eu quand même le témoignage de donner. Alors vous voyez, chaque église, chaque dénomination a sa façon de faire. Moi, franchement, je trouve que notre façon de fonctionner est bonne. Ce n'est pas interdit d'ajouter certains principes qui favorisent l'ordre dans l'église. Mais en vérité, C'est une confession de foi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité. Vous le croyez que Jésus est vivant? Qu'il est assis sur le trône? Mais vous le croyez, frères et sœurs, et qu'il revient bientôt? Il y avait un frère qui rappelait que Jésus, lorsque le jour des rameaux, là, il est monté sur un ânon. C'est vrai qu'il aurait pu monter sur un cheval blanc. Mais frères, je vous rassure, ça va venir. Ça va venir très bientôt. Mes frères et sœurs, je suis dans la maison du Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je proclame sa résurrection. Je proclame son retour. Parce qu'il est quand même dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Cène, c'est quelque chose d'archi-sérieux. C'est une commémoration, une confession de foi, un acte de foi. Un acte de foi. Je prends la Sainte Cène, je m'approprie toutes les bénédictions qui sont liées au calvaire. Oui ou non? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un pendant la Sainte Cène? Est-ce que quelqu'un peut recevoir le pardon? Dites-moi, j'ai passé une mauvaise semaine, Seigneur, j'ai vraiment été mauvais. Seigneur, je te demande pardon. Je me rappelle que ce petit peu de vin, je me rappelle ce qu'il représente. Ton sang a coulé. N'oubliez pas que c'est le Fils de Dieu, c'est pas le grand prophète Élie ou des grands sacrificateurs qui ont marqué l'histoire ou des hommes comme Moïse. Non, c'est pas des gens super bien. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui est pendu sur la croix, qui est en train de mourir pour toi. Est-ce que ça vaut la peine de faire un acte de foi et de dire, Seigneur, mais ce matin, moi, j'ai besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de restauration. Je suis tout sec. Ça va pas. Je lis plus ta parole, je lis, peut-être un pasteur m'écoute, peut-être comme l'entend, je lis que pour préparer des sermons. Eh bien, sois restauré ce matin, en prenant le pain et le vin. C'est une commémoration, c'est une communion. Je vis avec Jésus, je ne vis pas avec Jésus le dimanche matin. Ça, c'est ça la superstition, c'est ça la religion. Je vais à l'église le dimanche matin, je suis avec le Seigneur, je suis avec mon Seigneur. Le dimanche matin, à 9h30, c'est non négociable. Je vais à l'église et jusqu'à 11h30, je suis un chrétien. Mais le lundi, Seigneur, tu le sais, toi de ton côté et moi du mien. J'exagère ou j'exagère pas? Eh oui, il y a des chrétiens, c'est ça. Et ils ne le disent pas comme ça, mais le résultat, il est là. Chacun de son côté, ça c'est pas la communion. La Sainte-Cène, Seigneur, je suis en communion avec toi aujourd'hui. Mais demain matin, le moment le plus difficile peut-être quand le réveil sonne, Seigneur, je serai en communion avec toi et je partirai au travail en communion avec toi. Les conséquences de prendre la Sainte Cène à la légère, moi je vous assure, je vois des gens, mais je suis malheureux. Quand je vois des gens, bien sûr, ils ont pris le baptême, ils ont fait une expérience. Alors le problème, c'est qu'on est parti de travers. C'est comme un mur qui montait de travers. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller. Alors les gens font une expérience, ils sont guéris, ils avaient le cancer, on a prié pour eux, ils ont été guéris. Oh, le Seigneur est vivant, je sais qu'il m'a guéri, le docteur a été formel, c'est un miracle. Oh, je veux prendre le baptême. Mais ils prennent le baptême, ils ne sont pas convertis. Ils prennent le baptême pour dire merci. Et moi je leur dis aux gens, vous voulez remercier Dieu? Bien, dites merci. Ne prenez pas le baptême. Mais si, je veux prendre le baptême, je ne sais pas quoi faire pour le remercier. Remerciez-le. Et les gens prennent le baptême, ils ne sont pas convertis. Et c'est pour ça qu'on a des églises qui vont mal. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est attristé. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens qui sont dans l'illusion. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens, même dans les églises, qui sont méchants. Ils sont méchants. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ça va loin cette affaire, parce que je dois m'examiner. Vous avez vu le verset 27? Quand même, c'est sérieux ça. Ça fait 33 ans que je suis pasteur. C'est la première fois que je prêche sur la Sainte-Cène. La première fois. J'en ai honte. 1 Corinthiens 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous vous rendez compte, on ne peut pas prendre la Sainte-Cène n'importe comment. Mais même pour l'offrande. Vous vous rappelez, dans le sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, c'est pour l'offrande, je veux dire, qu'on va donner tout à l'heure. Moi, je suis heureux de donner mon offrande. Est-ce que c'est une bénédiction de donner l'offrande? Mais bien sûr, ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu, et c'est quelque chose que l'on doit faire. On n'ose pas parler d'argent parce que on dit oui, les pasteurs, ils veulent... Non, c'est quelque chose entre vous et Dieu. Mais mes frères et sœurs, même en ce qui concerne l'offrande, quand tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens, parce qu'il faut réfléchir, quand il dit « souviens-toi », ça prouve qu'on doit réfléchir, s'examiner soi-même, s'éprouver soi-même. Le moment de Sainte-Cène, c'est un moment de joie, de communion, etc. Mais en même temps, je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur? Est-ce que ça va bien avec mon épouse? Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. Qu'est-ce que ça coûte d'aller voir quelqu'un? Moi, je me souviens, j'étais ici, ça faisait 4 ou 5 ans. Un matin, je m'étais attrapé avec ma fille Esther. Vous savez ce que c'est, les parents? De s'accrocher avec une adote? Oui, vous savez ce que c'est. Je m'accroche avec ma fille. Je ne sais pas, elle avait certainement raison, j'avais tort, je ne sais rien. Et vous savez, papa, c'est parti, mais tu m'énerves, et tatati, et tatata. Et elle est partie dans sa chambre, elle est allée s'habiller, elle est allée au culte, et puis la Sainte-Cène arrive. Et moi, j'étais devant. Tu ne peux pas prendre la Sainte-Cène sans demander pardon à ta fille. Et je me lève, juste avant. Le temps que les frères, vite, vite. Je dis, ma fille, je viens te demander pardon pour tout à l'heure. C'est pas bien, pardon, pardon. Elle me regarde, elle me dit, papa, je vois que tu es un vrai chrétien. C'est bien. Qu'est-ce que ça coûte de demander pardon? Sérieusement. Qu'est-ce qui nous empêche de demander pardon sinon l'orgueil et le diable qui veut nous empêcher d'être en communion avec Dieu? Qu'est-ce que ça coûte d'aller voir quelqu'un et dire, bon frère, je te demande pardon, je t'ai mal parlé? Et c'est ça que Dieu nous demande. Quand tu présentes ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi. Alors peut-être que ça vous allez peut-être pas oser vous lever, vous n'allez pas téléphoner maintenant à quelqu'un avec qui vous êtes attrapé. Mais qu'est-ce que ça coûte de prendre son téléphone, son ordinateur, une lettre et d'écrire « Je te demande pardon mon frère pour tout ce qui s'est passé entre nous ». Vraiment, ce matin j'ai été repris, la parole du Seigneur m'a interpellé « Pardon, 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 que Dieu te bénisse, Gérard ». Qu'est-ce que ça coûte? Il y en a un qui doit être content qu'on ne le fasse pas. Ça ne coûte rien du tout. Quand je vois dans la parole de Dieu ces gens qui ont été bénis, j'ai failli prêcher, je savais que c'était ce sujet, mais je voulais prêcher sur la grâce de s'approcher de Dieu. Quand je vois Abraham, vous allez voir, je ne sors pas du sujet du tout. Quand je vois Abraham, que Dieu met à l'épreuve une énième fois, et il lui dit, offre ton fils en sacrifice. Vous connaissez cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, ce n'était pas rien que Dieu lui demandait. Le lendemain matin, il prend son fils. En plus, mais non, mais c'est, franchement, hier je cherchais le premier texte, la première fois où il est parlé du mois doré. Mais venez avec moi. Genèse 22, regardez bien, on ne sort pas du sujet, je peux vous le dire. Croyez-moi. Dans la Genèse, au chapitre 22, hier soir, avant de m'endormir, je dis, mais où c'est que c'est la première fois où il est parlé du mot adoré, vraiment, au niveau pratique. Genèse 22, verset 5. Regardez bien. Dieu met Abraham à l'épreuve. Quelque chose d'inouï de sacrifier son fils. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons... Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Jusque-là, pourquoi faire? Moi, je vous assure, hier soir, je me suis couché avec ce verset, j'ai dit, c'est pas possible. Vous avez compris? Il obéit de suite. Regardez verset 3. Abraham se leva de bon matin. Et quand il obéit, regardez au verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu... Crains Dieu. Cet homme aimait Dieu. D'ailleurs, ce matin, je pensais à ce verset quand il a dit « Travaillez à votre salut. » Avec quoi? Avec amour et joie. Mais aujourd'hui, on dirait « Il faut travailler à son salut avec joie. » Non, c'est pas vrai. Il faut travailler à son salut avec crainte, avec respect pour les choses de Dieu. Et s'il n'y a pas le réveil qu'on demande, c'est parce qu'en vérité, mardi, je pense que je vais avancer sur ce sujet, parce que je suis poussé à le faire. Comme j'ai été poussé à parler de la Sainte-Cène. Pour moi, parler de la Sainte-Cène, c'était inutile. Mais je me rends compte que les gens n'obéissent pas. Abraham, il a écouté le lendemain. Moi, j'ai vu un couple qui est dans le péché il y a quelques mois, et je leur ai dit, je les encourage. Bon, peut-être que je ne suis pas toujours adroit, mais je leur dis, obéissez à Dieu. Je les ai vus il y a quelques jours. Alors, vous avez mis votre vie en règle? Ça fait 3 mois. Non. Ah non, mais on n'y a pas, vous savez, on a du boulot. Les gens n'ont aucune crainte de Dieu. Alors moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Mais mes frères et sœurs, est-ce que les pasteurs, on ne sera pas jugés plus sévèrement? C'est écrit ou c'est pas écrit? Alors il y a des gens qui vous disent, oui, mais monsieur Gaulle, c'était du temps de la loi. Moi, je l'entends, ça, parce qu'on sait me le dire. C'était du temps de la loi que les pasteurs, ils avaient le sang des chrétiens, des croyants, sur leurs mains. Lisez avec moi, dans Actes. Mais je pense que c'est... Et là, je m'adresse aux pasteurs qui m'écouteront. Mais soyez sérieux. Attendez, je ne veux pas me tromper. Ou non, Acte 20. Acte 20, regardez ce que Paul dit au verset 26. Je ne sais pas si on est conscient. Il faut qu'on reprêche sur l'amour de Dieu, ça c'est sûr. Mais surtout sur la crainte de l'Éternel. Acte 20, verset 26. Regardez ce que Paul dit. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question de loi. C'est une question aussi du temps de la grâce. Regardez bien, Acte, je ne sais pas comment vous le voyez. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis de quoi ? Pur du sang de vous tous. Donc, ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament. Je regrette. C'est aussi une doctrine du Nouveau Testament. Et après, les gens, ils obéissent pas. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais un pasteur, il doit dire à quelqu'un qui vit dans le péché, tu ne dois pas prendre la Sainte-Cène. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour. Oui ou non? Et il y a des églises où les gens vivent dans le concubinage, mais on prend la Sainte-Cène, mais moi je vous en supplie. Et je suis sérieux, parce que moi aussi, je vais être pur du sang des chrétiens que Dieu m'aura confié. Et je veux m'efforcer, comme dit Paul, d'avoir une... Il n'y a pas que le spirituel, il y a la conscience aussi. Une conscience pure. Et on doit s'éprouver, si vous êtes dans le concubinage, ne prenez pas la Sainte-Cène. Si vous avez choisi de vous mettre en concubinage, ben c'est votre problème. Mais ne prenez pas la Sainte-Cène. Si vous commettez l'adultère, ne prenez pas la Sainte-Cène. Je le répète, la fornication, c'est avoir des relations sexuelles quand on n'est pas marié. L'adultère, c'est avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Et les adultères, les fornicateurs, n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous pouvez me dire, oui, mais ça c'était du temps d'eux. Écoutez-moi bien. Jésus a dit que les fornicateurs, les adultères, n'hériteraient pas le royaume des cieux. Alors vous couchez avec qui vous voulez, mais moi je vous dis que si vous vivez dans le péché, quand Jésus reviendra, vous allez le regretter. Nous, on n'est pas des gourous, on ne peut pas obliger les gens. Je ne peux pas vous obliger à vous marier, d'ailleurs je vous demanderai d'ailleurs de réfléchir. Parce qu'un jour il y a un couple qui est arrivé et qui m'a dit, monsieur Gaulle, notre pasteur nous a obligés de nous marier. On vivait ensemble, on a commencé à découvrir l'évangile, mariez-vous de suite, mariez-vous. Ils se sont mariés, un an après ils sont divorcés, bien sûr. C'est la faute au pasteur. Alors moi je dis, écoutez, soyez sûrs. Vous voyez les gens, c'est pas la faute au pasteur. Je pense que le pasteur était gauche, c'est sûr. Mais je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut être archi sérieux. Le Seigneur va revenir. Vous le croyez que Jésus va revenir? Alors je dois veiller à ma communion, que chacun s'éprouve soi-même. Celui qui ne s'éprouve pas, il prend un jugement. Alors que le contexte nous dit, la coupe que nous prenons, c'est une coupe de bénédiction. Je dois être béni. Vous ne voulez pas être béni tout à l'heure, dit Seigneur. Je suis sérieux, je vais prendre la Sainte-Cène. Ça c'est la présentation de la Sainte-Cène, elle est longue ce matin. Mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire, je veux être sérieux? Les choses de Dieu, elles sont sérieuses. Joyeuse comme c'est pas possible. Mais si on n'est pas sérieux, il n'y a pas de joie de toute façon. Mais c'est le moment de dire, mais c'est vrai, je ne peux pas prendre la Sainte-Cène. Mais j'étais baptisé, ça me met en communion avec Dieu. Je l'ai entendu ça. Oui, mais monsieur Gaulle, si je prends la Sainte-Cène, je suis en communion avec Dieu. Vous voyez la superstition, c'est ça? Non, c'est parce que je suis en communion avec Dieu que je prends la Sainte-Cène. Mais ne prenez pas un jugement contre vous-même. Mais moi, ça m'arrive souvent. Quand je suis arrivé ici, je regarde pas moi, si quelqu'un prend la Sainte-Cène ou prend pas la Sainte-Cène. Pourquoi? Parce que je suis souvent à votre place, ou là, et je m'éprouve moi-même. C'est normal ou c'est pas normal? Ben, c'est normal, le pasteur aussi doit s'éprouver. Bon, j'attends pas la Sainte-Cène, mais enfin quand même. Et un jour, il y a un frère qui me dit, monsieur Gou, il y a cette personne-là, elle prend la Sainte-Cène quand je suis arrivé, ça faisait moi. Et j'étais les voir, je leur ai dit, mais vous prenez la Sainte-Cène? Ben oui, un couple. Un homme et une femme, il faut dire quand même, un homme et une femme aujourd'hui, pour parler des couples. Un homme et une femme qui vivaient ensemble sans être mariés. Je dis, mais vous ne prenez pas la Sainte-Cène. Ouais, mais vous comprenez, moi j'ai la reversion de mon mari, j'ai une grosse retraite. Et bien j'ai dit, ça fait rien. Ils sont partis. Dernièrement, j'étais dans une église, ils y étaient, 18 ans après, toujours dans le même cas de figure. Et ils prennent un jugement contre eux-mêmes. Et alors c'est vrai qu'il nous faut, il faut absolument veiller. Quand on est dans les Corinthiens, il y avait plein de problèmes. Alors, cette épître, elle a été écrite dans le but. Dans l'église de Corinthe, il y avait un frère qui vivait avec sa belle-mère. Il couchait avec sa belle-mère. Paul, quand il écrit, il leur dit, mais vous devriez être révoltés contre ta femme. En plus, il y avait deux péchés, le péché du gars et le péché des anciens, qui ne reprenaient pas le frère. C'est pour ça que dans une église, il faut veiller les uns sur les autres. Et si vous voyez quelqu'un qui est dans le péché et qui prend la Sainte-Seine, vous devez nous le dire. Ce n'est pas pour cafarder. Franchement, mes frères et sœurs. Ah, mais moi, je cafarde rien. Hein. Mes frères et sœurs, si on aimait les gens, si on les aimait, on dirait, monsieur Gault, il y a telle personne, elle prend la Sainte-Seine, et on va l'aider. Il ne faut pas qu'elle prenne un jugement contre lui-même, contre elle-même. Oui ou non? C'est ça, veiller. Ah, moi, je dis rien. Moi, je cafte pas. Hein. Mes frères et sœurs, c'est que vous. Moi, je vais vous le dire. C'est que vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu. Vous n'aimez pas le Seigneur. Et vous ne nous faites pas confiance. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Le salut des gens. C'est pas sérieux, le salut des gens? Vous m'auriez vivre dans le péché. Franchement, vous me verriez vivre dans le mensonge. Volontairement, je vis dans le mensonge. Mais il n'y a personne qui viendrait. Enfin, je sais qu'à la maison, il y en a un qui s'en chargerait. Une qui s'en chargerait. Mais vous ne viendriez pas me le dire? Mais si vous m'aimez, oui. Quand on dit, moi, je m'en fiche, pour ne pas dire un autre mot, c'est son problème. Non. On veille les uns sur les autres. Et on le fait avec amour. Et si vous êtes dans le péché, ne prenez pas la Sainte-Seine. Je vous le dis de la part de Dieu. Moi, je veux être pur du sang de vous tous. Mais bien sûr, on ne dit pas, on n'ose pas, mais monsieur Untel, il prend, oui, mais il prend la Sainte-Seine, mais oui, mais vous savez, monsieur Gault, il donne une grosse dîme. Ça ne se passe pas ici. Hein. Ici, ça ne se passe pas. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Il donne une grosse dîme, monsieur Dupont. Et si on lui dit que ça ne va pas, il va partir. Et on n'aura plus la dîme de monsieur Dupont. Ça doit plaire au Seigneur, ça. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, moi je suis peiné quand je vois ce qui se passe, que les pasteurs n'osent rien dire. Mais nous, c'est parce qu'on vous aime, on vous aime, vraiment. Vous le croyez qu'on vous aime? On veut vraiment que vous vous jugiez vous-même. Vous avez vu les conséquences? C'est à cause de cela qu'il y a parmi vous, dans l'église de Corinthe, beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Alors mourir, c'est pas forcément un échec. Parce que vous avez vu la suite. Si Dieu nous reprend, c'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Moi, j'ai demandé le jour de mon baptême. J'ai dit, Seigneur, tu vois, si je dois un jour t'abandonner, je ne veux pas le croire, mais si je dois t'abandonner, reprends-moi le jour même. Et Dieu peut reprendre quelqu'un pour qu'il ne soit pas condamné avec le monde. Mais moi, je me souviens écouter ce témoignage, parce que j'en aurais à donner. Un jour, je vais dans une église prêcher. Pendant le culte, il y a une dame qui prophétise. Dans mon cœur, je sens que ça ne va pas. Je vais voir le pasteur, je dis, monsieur Untel, la dame qui a prophétisé, elle va bien? Ah, justement, je voulais vous en parler, tatatitatata. Puis c'est elle qui est venue me voir. Elle m'a dit, monsieur Gault, il faut que je vous parle. Elle était dans le péché, elle vivait avec un homme sans être mariée, elle prenait la Sainte-Seine. J'ai dit, mais il vous faut absolument arrêter de prophétiser, arrêter de prendre la Sainte-Seine. Vous avez voulu vous mettre avec un inconverti, bon, mais c'est votre choix. Mais soyez honnête avec Dieu. Cette femme aujourd'hui, elle est malade, elle est infirme. Et je sais qu'elle va bientôt mourir. Et mes frères et sœurs, je pense qu'il faut absolument que nous soyons sérieux avec la parole de Dieu. Et le Seigneur va la reprendre parce que cette femme, je sais qu'elle aime Dieu. Mais mes frères et sœurs, il faut absolument que nous soyons sérieux. Que chacun s'éprouve soi-même. Et si vous n'êtes pas converti, dites-vous bien que si un jour vous vous engagez, vous vous repentez, vous vous convertissez, il faudra que les choses soient claires. Quand je prends le baptême, je m'engage à être en communion avec Dieu. C'est ça le baptême. C'est quoi le baptême? Je m'engage à obéir au Seigneur. Je m'engage à faire en sorte que Jésus-Christ soit toujours mon Seigneur, mon Dieu. Souvent les gens disent, mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu, il est notre Dieu quand on obéit à sa parole. que chacun s'éprouve soi-même. Alors, dans l'église de Corinthe, regardez, il faut le lire, parce que ça va loin, l'histoire de... Ça va loin, cette affaire. Ça va loin. Regardez. Alors, faites attention à ce qui est écrit, parce qu'on me fait dire plein de choses qui ne sont pas vraies. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. » Alors, non avec, donc, d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, parce que si vous, sinon, demain, il faut arrêter de travailler. Alors, vous avez attention, les gens qui ne sont pas chrétiens, il faut garder le contact avec eux, et vous le comprenez, ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous travaillez avec des gens qui sont dans le péché, il vous faut les aimer et avoir plein de compassion pour eux, et être une source de bénédiction, et surtout ne pas les juger. D'accord ? Mais, verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, regardez, de ne pas même manger avec un tel homme. » Ça va loin, cette affaire. Ça, c'est une question de conscience. Mais quand même, mes frères et sœurs, si vous priez pour le réveil et que vous avez un chrétien qui boit, etc. Un chrétien, je parle. Qui boit, qui vit dans la débauche. Oh, t'es un frère. Non, c'est pas vrai. Ce n'est plus un frère. Il faut qu'il le sache. C'est ça, aimé. Regardez verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? Ce n'est pas, n'est-ce pas, à ceux du dedans que vous avez à juger ? Alors, les gens du dehors, on n'a pas à les juger. Ce n'est pas notre problème. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors là, on attaque un deuxième problème. Ce n'est pas le problème de s'éprouver soi-même par rapport à la Sainte-Seine, c'est le problème des gens qui sont méchants dans l'Église. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Mais quand même, mes frères et sœurs, on l'a vu ça. Et des fois, on n'a pas osé dire, cette personne, elle était méchante. Alors, ça peut arriver d'avoir une fois une parole mauvaise. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que ça peut arriver d'avoir une parole maladroite ? Pardon, 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 je t'ai mal parlé, excuse-moi, bon. On ne va pas généraliser. Mais mes frères et sœurs, vous avouerez que dans les églises, parfois, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Est-ce que ça ne serait pas les aimer que de dire, écoute, maintenant, tu te calmes. De leur enlever les responsabilités. En principe, les gens se retirent. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est méchant et que c'est justifié, ou il se repent, et là, béni soit Dieu, ou il se retire et il va ailleurs et il fait des problèmes ailleurs. Mais si on veut vraiment l'approbation de Dieu, on le verra à l'introduction, vous allez voir que j'ai préparé pour le jeûne et prière. On y reviendra si vous ne pouviez pas y rester. On comprendra certaines choses. Pourquoi Dieu bénit ? Quand Dieu dit à Abraham, vous savez quand Dieu dit à Abraham, à la suite, après je ne l'ai pas lu. Mais Abraham, Dieu parle. Moi, la première fois, j'ai failli pleurer quand j'ai cité ce texte parce que je me suis dit, t'es pas digne de citer cette parole. Parce qu'on porte la parole de Dieu. Et quand Dieu parle à Abraham et qu'il le dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel. Parce que tu as obéi, je te bénirai. Là, c'est pas si tu m'obéis, je te bénirai. Si tu fais ceci, c'est super. Si tu fais cela, ça va être bien. Non, là, on n'est plus dans le conditionnel. Là, on est dans la bénédiction pure. Parce que tu as obéi, je te bénirai. Moi, ce texte, moi, j'arrivais pas à le lire. Je dis, Seigneur, écoute, moi, je peux pas le lire. Vous avez dit, mais tu pinailles. Non, tellement c'était profond pour moi. Parce qu'il y a des choses, quand Dieu les dit, quand même, il faut y réfléchir. Et même quand on doit les porter de la part du Seigneur, c'est quand même une responsabilité. Alors, je termine. Mais ma communion avec Dieu, où j'en suis de ma communion avec Dieu, ce matin, là, 13 ou 14 mars 2016, où j'en suis ? Est-ce que je vis dans le péché ? Est-ce que j'ai de l'amertume ? Ah, j'ai de l'amertume contre Nicolas. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai de l'amertume contre Nicolas. Il m'énerve. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire ? Un frère, je me suis irrité contre un frère, contre une sœur. Qu'est-ce que je dois faire ? Demandez pardon. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul ? Soyez en paix avec tous les hommes, d'autant que cela dépend de vous. Je vais demander à Nicolas. Nicolas, il va me regarder, il m'a dit, monsieur Hugo, c'est votre problème. Il ne veut pas me pardonner. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais ? Mais rien. Soyez en paix, d'autant que cela dépend de vous. Parce que moi, en tant que pasteur, je suis d'abord un chrétien. Vous me voyez comme pasteur, mais moi, je me vois comme qu'un chrétien. Je suis qu'un chrétien, en fin de compte. Mais ça m'est arrivé de devoir reprendre des gens, sévèrement. sévère, et j'ai été sévère, pas parce que j'étais, parce que j'avais envie d'être sévère, mais parce que je devais l'être. Et j'ai dit à des gens, vous êtes méchants. Et puis quand même, le lendemain, je me suis dit, peut-être tu l'as dit trop dur, peut-être, on se déroge quand même. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller voir les personnes, dit, vous savez, je vous ai dit que vous étiez méchant, je le pense, mais je vous l'ai dit trop durement, je vous demande pardon pour la façon dont je vous l'ai dit. Les gens se sont fait des gorges chaudes de cette parole. Monsieur Gault est devenu me demander pardon, c'est lui qui avait tort. Ah ouais, moi, ça ne m'a pas fait rire parce que les gens, ils se maintiennent dans la désobéissance. Alors que moi, c'était par souci d'être soft que j'avais été dit, écoutez, je vous l'ai mal dit. Parce que des fois, il faut le dire sévèrement parce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que Paul a été sévère parfois? Mais oui, mais c'est une marque d'amour. Quand vous comprendrez que tout ce qui vient de Dieu, que ce soit dit avec tendresse ou avec sévérité, avec bonté, avec pas dureté, je ne crois pas que Dieu parle durement, mais que ce soit sévère, c'est toujours une bénédiction. Toujours une bénédiction. Si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il y a un gros, gros problème au niveau de votre conversion. Mais on devrait veiller les uns sur les autres. On devrait ôter le méchant du milieu de nous. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que la méchanceté? Qu'est-ce que la méchanceté? Tout à l'heure, on va jeûner, on va passer une heure ensemble à jeûner, à prier. Mais la Bible dit que le véritable jeûne, c'est de défaire les liens de la méchanceté. Alors, est-ce que si j'étais méchant, est-ce que j'accepterais que vous veniez me dire, Monsieur Gault, vous avez été méchant? Eh bien oui, il faut que j'accepte. Si je veux avoir la grâce de Dieu. C'est pour ça que ces choses-là, en plus, franchement, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Est-ce qu'un inconverti peut comprendre ça? Est-ce qu'un homme qui donne son cœur au Seigneur, il a donné son cœur au Seigneur lundi, il est là ce matin, c'est dimanche, il veut connaître la parole de Dieu, est-ce qu'il a besoin de 36 000 explications? Ben non, c'est pas vrai. La parole de Dieu, elle est claire, elle est simple. C'est une épée à double tranchant, vivante, efficace. Et là, je suis conscient, je vais prendre le pain et le vin. Moi, je vous l'ai dit une fois, là j'en ai honte. Mais je vous le dis parce que pour vous rassurer, il y a 20 ans de ça, j'étais en Polynésie. Et je m'étais attrapé, mais j'étais obligé d'être attrapé. Je ne le regrette pas en plus. Parce que c'était pour défendre la parole avec un pasteur. Et ça avait vraiment, vraiment chauffé. Très, 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 très chaud. Et j'ai eu de l'amertume. J'ai eu de l'amertume. Et vous savez, la boule au ventre. J'allais à l'église avec la boule au ventre. Ce n'est pas mon style. Hein. Et j'étais malheureux. Malheureux, malheureux, malheureux. Et le dimanche, je vous assure que j'y repense, j'ai honte. Et le dimanche, quand le pain et le vin passaient, ça a duré 2 mois. Mais ça a été 2 ou 3 dimanches où j'ai vraiment eu là. J'avais de l'amertume. J'avais de l'amertume. Et j'ai pris 2 ou 3 fois la Sainte-Seine. Et je n'aurais pas dû la prendre. J'en ai honte, mais je l'ai pris. Parce que si je ne l'avais pas pris, dans l'église, ça aurait été... J'ai désobéi à Dieu. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'était terrible pour moi, parce que je me suis dit, si tu ne prends pas la Sainte-Seine, déjà que ça allait mal. Vous voyez, est-ce que vous comprenez mon dilemme? Ça a été terrible, je vous assure. Et j'ai ouvert les yeux quand ma femme m'a dit, mais tu vois, il ne me dit pas bonjour, il ne me dit pas bonjour, le pasteur. Et ma femme m'a dit, mais Gérard, je ne te reconnais pas. Arrête de soupçonner le mal, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et ça a été une délivrance. Et j'ai réglé cette affaire. J'ai été le voir, j'ai dit, écoute, je te demande pardon. Et voilà, mais le problème, c'est que ça ne l'a pas aidé. Mais moi, ça m'a délivré. Et même s'il y a des moments, il faut savoir se taire. Vous savez, ce matin, je relisais encore. Parce que des fois, la solution, c'est quoi? C'est quoi la solution? Eh bien, on va le lire pour terminer. Vous savez, moi, il y a un texte qui me bouleverse. Chaque fois que je le lis, il n'y a pas que celui-là. Mais c'est quand même un des textes les plus puissants au niveau du pardon. Et au niveau de cette confiance en Dieu dans Matthieu, au chapitre 27. Moi, c'est un texte qui me bouleverse. Mais vraiment bouleverse. Chaque fois que je le lis. Et dans ce cadre, vous voyez, de Sainte-Seine, où on s'éprouve soi-même, et il faut faire pour le mieux. Comment je fais? Je suis ancien dans l'Église, je suis un simple membre de l'Église. Ce frère, il faut qu'on veille les uns sur les autres. Il faut qu'on veille les uns sur les autres. Mais regardez notre exemple, notre Seigneur Jésus. Mais regardez cette affaire. Matthieu chapitre 27, verset 11. Bien sûr que vous le connaissez par cœur, mais réalisez ce qui s'est vraiment passé. Jésus comparut devant le gouverneur, c'était à quelques heures de mourir pour vous et moi. Regardez bien,
Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. C'est sûr que quand on va être crucifié, on se défend en principe. Il ne dit rien. Est-ce qu'il y avait une accusation de vrai sur tout, au moins? Il n'y en avait pas une de vraie? Aucune qui est vraie. Tout était faux. Tout était faux. Et Jésus, il n'a rien dit. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Il n'a rien dit. Tout était faux. Tout était faux. Il n'a rien dit. Des fois, c'est la meilleure des choses à faire, rien dire. Car nous avons un Dieu qui nous justifiera. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Alors, ce que nous avons à faire pour terminer cette exhortation, c'est d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles. L'Esprit a des choses à dire à l'Église, que celui qui écoute, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Oui ou non? Que celui qui a des oreilles, écoute. Je prends la Sainte-Seine, mais c'est sérieux. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se recueille vraiment? Mes frères et sœurs, c'est sérieux, je ne sais pas où vous en êtes. Mais que vous l'appreniez ou que vous ne l'appreniez pas, ça peut être une bénédiction pour vous ce culte, croyez-moi. Si vous êtes dans le péché, si vous n'êtes pas converti, ne prenez pas la Sainte-Seine. Si vous êtes dans le concubinage, dans l'adultère, dans le mensonge, ne prenez pas la Sainte-Seine. Vous n'en avez rien à faire de ce que les voisins penseront. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. On va prendre la Sainte-Seine. Mes frères et sœurs, je voudrais que tous en réfléchissent. Vous savez, cette prédication, je sais que ce sont des milliers, des milliers, des milliers de gens qui vont l'écouter. Parce que dans des églises, il y a des milliers de chrétiens qui prennent la Sainte-Seine sans s'éprouver. Ils prennent un jugement, c'est quelque chose de terrible. Vous auriez dû le savoir, ce que je vous dis. Tout le monde devrait le savoir. Mais bon, quand on est dans la légèreté, quand on est dans la désobéissance, on a besoin d'aide. Moi, je veux pouvoir dire, quand je partirai de cette église, je suis innocent et pur du sang de tous les chrétiens. Je sais que je n'aurais pas été le meilleur pasteur, mais ça, ce n'est pas un problème. Le problème du meilleur pasteur, ça ne veut rien dire en plus. Le problème, c'est d'obéir à la parole. Et vous devez savoir si vous pouvez prendre ou non la Sainte-Seine. Vous devez le savoir. Je voudrais inviter tous ceux qui sont croyants, baptisés d'eau, ceux qui se sont engagés avec Jésus-Christ, à se lever à leur place, vraiment le faire de bon cœur. Mes frères et sœurs, c'est une commémoration, c'est une alliance, c'est un acte de foi. Je peux dire, c'est une joie. La coupe n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Je suis sous le sang de Christ. La colère, elle vient. Moi, j'en suis abstrait. Je suis dans la grâce de Dieu et bientôt moi aussi je vais être revêtu de fin lin blanc pur éclatant parce que je suis sérieux. Comme Abraham, je sais que tu crains Dieu, que Dieu puisse un jour nous dire à tous, je sais que tu crains Dieu. Oui, ceux qui attendaient depuis un mois, deux mois, trois mois pour obéir, les ados, les jeunes là qui ne se convertissaient pas, vous êtes en danger, vous ne vous rendez pas compte que vous endurcissez votre cœur. J'attends, vous attendez quoi? Que Jésus revienne? Que vous soyez obligé de payer de votre vie pour être sauvé? N'endurcissez pas votre cœur. Que vous attendiez, moi ça ne me dérange pas. Mais en vérité, ce qui est grave, c'est qu'en attendant, vous endurcissez votre cœur. Et c'est biblique, vous le savez, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.